VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, bienvenue dans le monde aujourd'hui. Eric Manilakis à la présentation de cette édition du mardi 24 août 2021. Voici d'abord le sommaire. L'ex-président tchadien Hissène Habré est mort du coronavirus au Sénégal. Il purgeait une peine de prison à vie. En Zambie, le tout nouveau président Kainde Hichilema est investi à Lusaka. Des milliers de personnes ont fui leur village après des affrontements entre éleveurs et pêcheurs dans le nord du Cameroun. Évacuation d'Afghanistan, les pays occidentaux font le maximum pour respecter le délai du 31 août. Le patron de la CIA a rencontré à Kaboul le chef des talibans. Dans 10 minutes, vous suivrez également l'économie et les sports, mais d'abord le journal. L'ancien président tchadien Hissène Habré est décédé mardi à 79 ans au Sénégal. Il avait été condamné à la prison à vie en 2016 pour crime contre l'humanité par une juridiction africaine. Il est mort du coronavirus à l'hôpital principal de Dakar. Nathalie Barge.
La famille et les avocats d'Hissène Habré réclamaient depuis des mois un autre régime que celui de la détention en invoquant son âge et la dégradation de son état de santé. La justice sénégalaise avait consenti en avril 2020 à le laisser sortir de prison pendant 60 jours en le déclarant vulnérable au coronavirus. Il était alors retourné chez lui à Dakar sous garde pénitentiaire permanente. Le collectif des victimes de Hissène Habré s'est toujours opposé à tout régime de faveur en faisant valoir qu'il ne leur avait toujours rien versé sur les 82 milliards de francs CFA de dédommagement ordonnés par la justice, soit environ 147 millions de dollars. Renversé en 1990, Hissène Habré avait trouvé refuge au Sénégal. Il avait été arrêté en 2013 et inculpé par un tribunal spécial instauré en coopération avec l'Union africaine. Habré avait été condamné en 2016 à la prison à vie à l'issue d'un procès à Dakar pour crime contre l'humanité.
La marine angolaise a été récemment accusée d'être entrée illégalement en territoire congolais, ce que Luanda a catégoriquement démenti. Le 10 août, dans une note interne, le chef d'état-major des forces armées de la RDC, le général d'armée Célestin Mbala, a alerté sur l'incursion de la marine angolaise dans les eaux congolaises au large du territoire de Moanda et dans deux autres territoires congolais du sud-ouest à la frontière avec l'Angola, ce que Luanda a formellement démenti. En Zambie, Hakainde Hichilema a prêté serment ce mardi comme nouveau président. Il a promis de redresser l'économie de son pays rongé par une dette colossale et garantir une réelle liberté à tous ses concitoyens. Les précisions avec John Lyndon.
Le tout nouveau président Hakainde Hichilema a promis dans un tweet matinal une nouvelle ère en Zambie. Il a prêté serment devant des milliers de partisans dans le stade des héros à Lusaka. Beaucoup y ont passé la nuit pour assister à son investiture. « Je jure de remplir fidèlement et avec diligence mes devoirs », a-t-il déclaré, une Bible entre les mains, après avoir salué la foule à dominante rouge, la couleur de son parti. Plusieurs chefs d'État, mais aussi des figures d'opposition régionale, sont venus saluer une transition politique en douceur. « Nous avons montré au monde entier la résilience de notre démocratie », a déclaré sous les acclamations celui que les Zambiens appellent HH, terme affectueux pour désigner un aîné. À 59 ans, candidat à la présidence pour la sixième fois, Hichilema a été élu le 12 août dernier avec près d'un million de voix d'avance face au président sortant Edgar Lungu.
Au Mozambique, un agent du renseignement, premier des 19 accusés entendus dans le procès de la dette cachée, a avoué mardi avoir touché des pots de vin et mis en cause l'actuel président Filipe Nyusi. Cipriano Mutota a reconnu avoir partagé plus de 830 000 euros de commissions occultes avec trois autres personnes. Entre 2013 et 2014, trois entreprises publiques mozambicaines ont contracté 1,76 milliard d'euros de prêts pour financer des projets maritimes et de chantiers navals. Ces prêts tenus secrets par le gouvernement jusqu'à leur révélation en 2016 ont valu au pays le retrait du soutien du FMI. Les autorités éthiopiennes ont reporté du 6 au 30 septembre le scrutin des élections nationales prévues dans un cinquième des circonscriptions du pays qui n'avait pu se tenir en juin en raison de violences ethniques et de problèmes logistiques. Le parti du Premier ministre Abiy Ahmed est d'ores et déjà assuré d'une majorité au Parlement. Ces élections initialement prévues en août 2020 ont été reportées à deux reprises en raison du coronavirus puis de difficultés logistiques. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a appelé le gouvernement érythréen à retirer d'Éthiopie ses forces militaires immédiatement et de façon permanente. Monsieur Blinken s'est en outre inquiété que d'importantes troupes érythréennes soient de nouveau entrées en Éthiopie. Il a appelé le Conseil de sécurité de l'ONU et la communauté internationale à plaider ensemble pour une résolution pacifique du conflit. Le ministre algérien des Affaires étrangères, Ramtane Lamamra, a annoncé mardi la rupture des relations diplomatiques avec le Maroc voisin en raison d'actions hostiles du royaume à l'égard de l'Algérie. Le ministre a dit que l'histoire avait montré que le royaume du Maroc n'a jamais cessé de mener des actions hostiles à l'encontre de l'Algérie. Mercredi dernier, le Haut Conseil de sécurité présidé par le président Abdelmadjid Tebboune avait décidé de revoir les relations avec le Maroc, accusé d'être impliqué dans les incendies meurtriers qui ont ravagé le nord de l'Algérie. Les actes hostiles incessants perpétrés par le Maroc ont nécessité la révision des relations et l'intensification des contrôles aux frontières ouest, selon un communiqué officiel algérien. Le président Kais Saied a prolongé dans la nuit de lundi à mardi jusqu'à nouvel ordre le gel du Parlement, plongeant un peu plus la jeune démocratie tunisienne dans l'inconnu. Le 25 juillet, M. Saied a invoqué la Constitution pour s'octroyer les pleins pouvoirs, limoger le chef du gouvernement Hichem Mechichi et suspendre le Parlement pour une période initiale de 30 jours dans un pays qui reste 10 ans après l'unique rescapé du printemps arabe. 18 migrants cherchant à rejoindre l'Europe sont morts noyés dans un naufrage au large de la côte ouest de la Libye. Un nouveau drame dans l'immigration clandestine en Méditerranée. Un responsable des gardes-côtes libyens a indiqué mardi à l'AFP que 51 autres migrants ont été secourus.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Les Américains et leurs alliés mettent les bouchées doubles pour évacuer des milliers de personnes qui sont encore à l'aéroport de Kaboul avant le 31 août. Le chef de la CIA a rencontré le cofondateur des talibans. Le point avec Abdulrahman Dia.
La rencontre entre William Burns et Abdul Ghani Baradar à Kaboul a été révélée par le Washington Post. La teneur de la discussion n'a pas été dévoilée. Un porte-parole de la CIA, contacté par l'AFP, n'a pas confirmé la rencontre, expliquant que l'agence ne parlait jamais des déplacements du directeur. Les Américains accentuent leurs efforts pour évacuer au plus vite les milliers d'Afghans et d'étrangers de Kaboul. Les talibans ont averti qu'ils ne vont plus tolérer ces opérations que pendant une semaine. Washington annonce que 16 000 personnes supplémentaires ont été évacuées en 24 heures. Les talibans ont réitéré ce mardi que les Occidentaux évacuent leurs ressortissants et pas les Afghans qualifiés. Le ministre allemand des Affaires étrangères, Heiko Maas, a indiqué que les évacuations ne seraient pas terminées à la date du 31 août. Amnesty International appelle les Occidentaux à ne pas baisser les bras devant les talibans et à poursuivre les évacuations s'il le faut au-delà du 31 août. Plusieurs pays européens ont exprimé leur crainte d'une crise migratoire avec la chute de l'Afghanistan aux mains des talibans. De son côté, l'Organisation mondiale de la santé a indiqué que ses fournitures médicales en Afghanistan ne pourront pas tenir plus d'une semaine.
L'ONU a indiqué mardi qu'une catastrophe humanitaire attend les Afghans cet hiver si la communauté internationale ne fait pas de leur vie une priorité en donnant des fonds pour fournir davantage d'aide dans le pays. Le Premier ministre israélien Naftali Bennett est en route mardi pour Washington sur le tarmac de l'aéroport de Tel Aviv. Monsieur Bennett a déclaré à des journalistes vouloir partager un nouvel esprit de coopération avec le président démocrate Joe Biden qu'il doit rencontrer jeudi, grand allié de l'État hébreu qui partage la même aversion pour l'Iran. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. Dans l'actualité économique en Afrique et ailleurs, suivez la Minute Éco signée John Lyndon.
Plusieurs centaines de responsables d'entreprises et de gouvernements africains sont réunis depuis mardi à l'hippodrome de Paris-Longchamp. D'après l'agence Ecofin, cette rencontre, organisée par le MEDEF, a pour objectif principal de renforcer les échanges économiques et les investissements entre pays francophones et plus particulièrement entre les investisseurs français et les pays francophones du continent africain. En Côte d'Ivoire, Tractafrique Motors, spécialisé dans la vente de véhicules neufs, va verser un dividende net de 1,668 milliards de francs CFA à ses actionnaires le 2 septembre 2021. Selon Financial Afrique, Tractafrique Motors Côte d'Ivoire a réalisé un bénéfice après impôt de 1,863 milliards de francs CFA contre 1,807 milliards de francs CFA en 2019, soit une légère hausse de 3,09%. L'allocation des droits de tirage spéciaux la plus élevée de l'histoire, environ 650 milliards de dollars, a pris effet lundi, selon Kristalina Georgieva, directrice générale du FMI. Les DTS sont alloués aux pays membres proportionnellement à leur quote-part au FMI. Seuls 33 reviendront aux pays africains sur les 650 milliards de dollars disponibles. L'Afrique du Sud, le Nigeria, l'Égypte, la RDC et le Maroc sont parmi les pays africains qui vont en bénéficier.
Et sans transition, nous retrouvons Bagassi Koura pour la page des sports. Bonsoir Bagassi.
Bonsoir à tous. L'empereur du Japon, Naruhito, a officiellement déclaré ouvert les Jeux paralympiques de Tokyo lors de la cérémonie d'ouverture au stade national, 16 jours après la clôture des JO et un an après leur date initiale. Je déclare ouvert les Jeux paralympiques de Tokyo 2020, a énoncé derrière son masque blanc l'empereur Naruhito dans la tribune officielle du stade, privé de spectateurs en raison du huis clos généralisé décrété face à la cinquième vague de COVID-19 frappant le Japon. Seuls quelques officiels et les médias ont assisté au spectacle puis au défilé des délégations. Coup d'envoi de 13 jours d'une exposition rare pour les parasports, puisqu'une audience de 4 milliards de téléspectateurs cumulés est attendue par le Comité international paralympique. Jusqu'au 5 septembre, 539 médailles d'or vont se disputer entre 4 400 para-athlètes, parmi lesquels quelques stars comme le sauteur en longueur allemand Markus Rehm, surnommé Blade Jumper, en raison de sa lame de protège en carbone. En football, selon Foot Africa, un Français succède à un autre sur le banc de la GS Kabylie après le départ de Denis Lavagne qui a conduit les Canaries en finale de la Coupe de la Confédération et au sacre en Coupe de la Ligue algérienne. La GSK a annoncé lundi la nomination d'Henri Stambouli, 60 ans, au poste d'entraîneur, sélectionneur de la Guinée, du Mali ou encore du Togo par le passé, et coach de plusieurs clubs en Afrique du Nord, Raja Casablanca et Club Africain notamment. Le technicien s'occupait depuis une dizaine d'années des centres de formation de l'OM puis de Montpellier. Le natif d'Oran s'est engagé pour 2 ans, affirme Afrique Foot. Et puis enfin, le sélectionneur du Congo, Paul Puit, a dévoilé lundi sa liste de 26 joueurs retenus pour affronter la Namibie le 2 septembre, le Sénégal le 7 septembre à l'occasion des deux premières journées des éliminatoires du Mondial 2022. Selon Foot Afrique, cette liste est marquée par des absences du défenseur central du Havre, Fernand Mayembo, blessé, de l'attaquant vedette Thievi Bifuma, dans l'impasse avec Heilongjiang Ice City en Chine. Deux joueurs évoluant en France sont appelés, note le site. Le défenseur du Havre, Nolan Mbemba, et le jeune attaquant de Montpellier, Benny Makwana. L'ancien Montpelliérain Morgan Pouati aura l'occasion de fêter ses premières capes après plusieurs rendez-vous manqués.
C'était les sports de Bagassi Koura. Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Eric Madelakizado, retour avec vous pour aborder les dossiers du jour. Au Tchad, les organisations de la société civile et les victimes de répression sous le régime de Hissé Nabré ont appris avec surprise et désolation la mort au Sénégal de l'ancien président tchadien. Pour ces organisations, cette mort en prison suite au Covid-19 doit servir de leçon aux dirigeants africains. André Kodmajingar, correspondant de VOA Afrique, fait le point de N'Djamena.
Décédé à 79 ans au Sénégal, l'ancien président tchadien Hissé Nabré a été condamné à la prison à vie en mai 2016 pour crime contre l'humanité par les chambres africaines extraordinaires, une juridiction créée suite à un accord entre le Sénégal et l'Union africaine.
Moi, ça ne me surprend pas. Hissé Nabré a été condamné à perpétuité. Donc, tout le monde sait qu'un jour à l'autre, Hissé Nabré va mourir.
Clément Ndokota Baifuta, président de l'association des victimes des crimes sous le régime de Hissé Nabré, l'homme qui s'est battu aux côtés des ONG des droits de l'homme pendant plusieurs années pour obtenir enfin la condamnation de l'ex-dictateur tchadien Hissé Nabré, dit regretter une chose.
Le regret est que Hissé Nabré devait rester vivant pour voir comment les victimes vont entrer dans leur réparation, comment ils vont jubiler. Il est mort, mais ça devrait plutôt interpeller les autorités sénégalaises, les autorités de l'Union africaine et même le gouvernement tchadien pour que le processus sur toute la ligne soit un peu accéléré. Parce que jusqu'à là, les biens de Hissé Nabré ne sont pas saisis. Non, mais les victimes ne peuvent pas continuer à se nourrir des promesses, c'est vraiment de l'insulte la plus abjecte.
Ce n'est pas une mendicité, mais une question de droit et les victimes attendent toujours leur indemnisation, a déclaré à VOA Afrique Madame Naomi, malade couchée sur le lit.
Il est condamné à perpétuité. S'il est décédé, s'il est vivant, nous on a besoin de notre réparation. Je suis vraiment humaine, mais son décès ne me dit rien.
Pour le défenseur des droits de l'homme, Dobien Assingar, qui faisait partie de ceux qui ont accompagné les victimes dans toutes leurs démarches et ont abouti à la condamnation d'Hissé Nabré, la mort d'un être humain ne peut être une occasion de réjouissance.
Nous nous sommes battus pour que chaque être humain soit en vie, y compris Hissé Nabré lui-même, mais comme il a causé du tort à la société tchadienne, que nous lui avons porté plainte pour qu'il puisse reprendre de ses actes. Mais nous ne l'en voulons pas jusqu'à la mort. Pour nous, toutes les vies humaines là se valent, que ce soit pour Hissé Nabré, pour tous ceux qui ont péri dans les geôles de son régime, nous aurions souhaité que tout le monde soit en vie. Et lui particulièrement, afin que tout le tort qu'il a créé à la société tchadienne puisse servir de leçon à ceux qui s'y dirigent encore le pays aujourd'hui. Parce que nous sommes prêts à recommencer.
Pour Maître Jacqueline Boudéina, avocate des victimes, la mort d'Hissé Nabré ne peut pas empêcher le Tchad d'honorer ses engagements vis-à-vis de ses victimes.
Le Tchad a été condamné solidairement avec les complices d'Hissé Nabré à verser aussi des indemnisations aux victimes.
La commission d'enquête tchadienne a estimé à 40 000 morts sous son règne, dont 4 000 nommément identifiés. Et pour cela, les chambres africaines extraordinaire l'ont condamné à indemniser plus de 70 000 victimes à hauteur de 82 milliards de francs CFA et le Tchad doit s'exécuter à hauteur de 50%. André Kodmajingar, N'Djamena pour VOA Afrique.
VOA Afrique, N'Djamena, c'est 93.1 FM au Tchad.
Dans le nord du Cameroun, des milliers de personnes ont fui leur village en direction du Tchad voisin après des affrontements entre éleveurs et pêcheurs. Plus de 40 personnes ont été tuées, une centaine de blessés et 40 villages ont été incendiés. Un reportage de Moki Edwin Kinzeka, relaté par Nathalie Barge.
Un conflit entre éleveurs et pêcheurs a provoqué le déplacement de nombreuses personnes dans des villages du département du Logone et Chari. Les habitants sont réticents à revenir chez eux à cause de la violence persistante dans la région. Midjiawa Bakari, gouverneur de la région de l'extrême nord du Cameroun.
Les gens ont beaucoup parlé des conflits intercommunautaires. À l'analyse, nous nous sommes rendus compte qu'il s'agit d'un problème de pêche et d'élevage. Même entre ces communautés-là, il y a des problèmes. Les Arabes sont d'essence éleveurs. Mais entre eux-mêmes, il y a des problèmes de pâturage. Les Mousgoum sont des pêcheurs. Ces problèmes de trous et autres retenues d'eau se posent également avec acuité entre eux. On ne saurait ramener ces problèmes à un problème communautaire.
La semaine dernière, le gouvernement a signalé qu'au moins 11 000 civils ont été déplacés par les affrontements entre les pêcheurs Mosgoum et éleveurs Choua qui se disputent l'accès à l'eau. La plupart ont traversé le fleuve Logone entre le Cameroun et le Tchad. Le député Kamsouloun Abba Kabir, un leader de la communauté Choua, dit que la paix revient progressivement.
Nous déployons sur le terrain pour appeler nos frères qui sont sur place ou bien nos frères de la diaspora qui utiliseraient des communications qui n'encouragent pas, qui ne facilitent pas ce que nous sommes en train de faire, d'être des ambassadeurs de la paix. Il faut que la paix revienne.
Le président Paul Biya a tenu lundi une cinquième réunion de crise à Kousséri, capitale du Logone-Chari. Au cours de la rencontre, il a été signalé que 43 personnes ont été tuées, plus d'une centaine blessées et 40 villages incendiés. Doumbé Amat, pêcheur et porte-parole des membres de la communauté Mosgoum.
Cette crise a dégénéré, ayant un impact considérable sur le plan économique. Il y a eu des pertes en vies humaines, des pertes énormes en matériel, il y a eu destruction des biens. C'est triste. Nous sommes tous attristés par cette situation. Et donc, pour que la paix revienne, et je pense que l'appel est entendu.
Précisant que le gouvernement enverrait de l'aide aux victimes, le gouverneur Midjiawa Bakari a distribué de la nourriture et des matelas à environ 200 personnes déplacées qui sont rentrées lundi. Pour Mamat Bar Marouf, chef traditionnel dans la localité du Logone Birni, les Mosgoum et Choua doivent apprendre à vivre ensemble.
Je voudrais rappeler à toute la population du département du Logone et Chari que nous sommes appelés à vivre éternellement ensemble. Nous sommes liés par l'histoire, nous sommes attachés par la chaleur humaine.
Mes frères arabes, Mosgoum et même les autres communautés, la paix vaut plus que tout. On ne peut pas bâtir un sultanat, un département ou un pays dans la guerre. Je prie le bon Dieu afin que nos cœurs soient unis.
Les autorités camerounaises ont indiqué qu'elles vont envoyer des représentants du gouvernement, des religieux et des chefs traditionnels au Tchad voisin afin d'encourager les gens à revenir chez eux.
Washington, VOA Afrique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Des experts en armement d'Amnesty International ont identifié des armes de fabrication serbe dans des vidéos publiées par des groupes armés opérant dans le Sahel, notamment ceux affiliés au groupe à l'État islamique. Comment ces armes illégalement vendues à des gouvernements se sont-elles retrouvées entre les mains de groupes armés djihadistes? Nani Tetalani a joint à Québec, au Canada, Ousmane Diallo, chercheur à Amnesty International pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre.
Au terme de cette analyse, nous avons pu noter que beaucoup de ces groupes disposaient d'armes, de fusils et de mitrailleurs provenant de la République tchèque, de la Serbie et de la Slovaquie. Parmi ces armes, notamment au Burkina Faso, on a pu noter des armes assez sophistiquées, donc détenues par ces groupes armés, notamment des fusils mitrailleurs Zastava, qui est une entreprise serbe. Et on sait que durant ces dernières années, le gouvernement burkinabé a eu des accords commerciaux avec l'entreprise Zastava.
Comment ces armes se retrouvent-elles entre les mains des groupes armés?
D'abord, par le biais du commerce légal d'acquisition d'armes, les gouvernements nationaux qui achètent des armes auprès de ces revendeurs-là ou bien de ces manufacturiers. Pour le cadre des groupes d'autodéfense, les armes peuvent se retrouver entre leurs mains dans le cadre des circuits commerciaux illégaux qui existent dans la région et qui sont souvent issus de la diversion des stocks d'armes des gouvernements nationaux, mais aussi potentiellement du fait que certaines de ces armes n'ont été données par les membres des forces de défense et de sécurité, et ce, potentiellement, sont à la connaissance ou l'aval du commandement central. Pour les groupes armés djihadistes, comme le groupe pour le soutien à l'islam et aux musulmans et à l'État islamique dans le Grand Sahara, une hypothèse de travail est que ces armes-là aient pu tomber entre leurs mains suite à leurs attaques qu'ils ont commises contre les forces de défense et de sécurité du Burkina, du Mali et du Niger.
Vous aviez mentionné le fait que ces armes proviennent de plusieurs pays. Mais pourquoi le rapport parle de façon spécifique de la Serbie?
Le rapport parle spécifiquement de la Serbie parce qu'on a noté une prolifération de fusils mitrailleurs Zastava dans les possessions de ces groupes armés-là. Ce sont des fusils mitrailleurs assez récents. Donc ce ne sont pas des vieilles armes yougoslaves comme on a pu le noter dans plusieurs conflits d'Afrique de l'Ouest. Mais ce sont des armes de fabrication récente et ils sont issus d'accords commerciaux souvent entre ces manufacturiers-là et les gouvernements des États sahéliens. Et donc le fait que ces armes Zastava-là, qui sont très prisées, soient présentes parmi les groupes armés d'autodéfense et les groupes armés extrémistes violents, montre qu'il y a une nécessité pour ce pays, la Serbie, et pour cette entreprise Zastava, de revoir leur politique de commerce des armes et de s'assurer qu'il y a une conformité et des protocoles soient mis en place pour bien contrôler le flux de ces armes afin qu'ils ne servent pas à des abus des droits humains.
Quel est l'impact de cette situation dans le Sahel?
Cette situation a un impact très négatif dans le Sahel parce que depuis 2017, on assiste d'année en année à une augmentation des morts civiles au Sahel.
Que devraient faire les États importateurs pour éviter que les armes ne finissent aux mains des groupes armés?
Les États importateurs, comme le Mali, le Niger et le Burkina Faso, doivent s'assurer que leur stock d'armes et leur arsenal est bien protégé et qu'il n'y a aucune fuite ou de mécanisme qui permette leur diversion et leur accession par les groupes armés, que ce soit les groupes armés d'autodéfense ou les groupes armés extrémistes violents. Ils doivent aussi diligenter leur politique en matière de circulation des armes dans leur pays et s'assurer que les flux d'armes sont beaucoup mieux contrôlés. Au niveau des pays exportateurs, je pense qu'il est très important pour eux de reconsidérer leur politique commerciale, notamment lorsqu'ils savent que les armes qu'ils vendent légitimement à des gouvernements de la région peuvent se retrouver entre les mains de groupes armés et contribuer à des attaques contre les populations civiles innocentes.
Ousmane Diallo, chercheur à Amnesty International pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Les États-Unis ont pleinement autorisé lundi le vaccin contre le Covid-19 de Pfizer-BioNTech. Quel pourrait être l'effet de cette décision sur les hésitants? Rosine Munezero a joint à Washington le docteur Tienku Constantine, médecin généraliste et directeur de la clinique Healing Hands Medical Center en Virginie, ici aux États-Unis.
Le processus d'homologation demande que un médicament soit safe, qu'il soit efficace et qu'il soigne la maladie dont il est destiné. Pour les mesures d'urgence, on ne permet les mesures d'urgence qu'en cas où s'il n'y a pas d'autre alternative à ce médicament et on se base seulement sur les données disponibles. Ça veut dire que le standard est très bas parce qu'on veut qu'il soit rapide, on se base sur les données disponibles et il ne doit pas avoir d'autres médicaments alternatifs déjà approuvés sur le marché. Pour ce qu'on appelle l'homologation FDA, on doit montrer que le médicament est efficace, que l'efficacité est supérieure aux effets néfastes et que ça ne produit pas des effets indésirables qui peuvent nuire aux patients. Et l'entreprise qui demande l'autorisation doit donner tous les documents nécessaires.
Pensez-vous que cela va maintenant convaincre les hésitants à prendre le vaccin?
En théorie, oui. Oui, parce que maintenant, le vaccin Pfizer a complété toutes les étapes d'homologation et c'est une décision finale. Antérieurement, l'autorisation d'urgence était temporaire et des durées très temporaires qui devaient être renouvelées, soit tous les 6 mois. En principe, oui, mais en pratique, non. Ceux qui n'ont pas pris le vaccin ne l'ont pas pris parce qu'ils attendaient le FDA approval. Ils ont refusé de le prendre parce qu'ils ont la désinformation. Je ne pense pas que sur le plan pratique, ça changera grand-chose.
Il y a justement un problème de confiance dans les vaccins contre le COVID, pas seulement le Pfizer. Que diriez-vous à ceux qui ont peur, qui hésitent encore à se faire vacciner?
Je vais répondre en deux phases. Pour un premier temps, le vaccin est un très bon vaccin. Il est efficace. 95% des gens qui meurent aujourd'hui n'ont pas pris le vaccin. 99% des gens qui meurent aujourd'hui n'ont pas été vaccinés. Ça veut dire que moins de 1% des gens qui sont vaccinés meurent. Ça, c'est sur le plan scientifique purement. Alors, le problème du vaccin et la communication concernant ce vaccin, c'est le problème du 21e siècle. Il y a trop d'informations qui sont des sources diverses, surtout ce qu'on appelle le social media.
Le docteur Tienku Constantine, directeur de la clinique Healing Hands Medical Center en Virginie, ici aux États-Unis. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à VOA Afrique. Un grand merci à toute l'équipe de la rédaction et de la production qui a permis la réalisation de cette édition. Eric Manilakidza était avec vous à la présentation. Ainsi va le monde aujourd'hui. Pour plus d'informations, 24 heures sur 24.